Alors, Aline, tu es la première que je vais recevoir à cette émission que j'inaugure aujourd'hui qui s'appelle Rêver pour moi. Et je voulais que ça soit toi parce que je crois que ton rapport au rêve est très particulier. Nous avons déjà parlé de nos rêves. Mais je vais te dire aussi que ça sera toi parce que tu me fais penser à un texte de Pontalis dans Le Dormeur éveillé. Et je vais te lire ce texte auquel je pense à toi, et tu vas voir. Elle avait un don particulier pour raconter des histoires. Du moindre incident de la vie quotidienne, elle aimait faire tout un roman. Quand je l'écoutais, j'étais bien en peine de différencier la réalité des faits et la fiction, le passage de l'une à l'autre étant indiscernable. Peut-être les événements s'étaient-ils réellement passés comme elle les relatait. Peut-être me trompait-elle et se trompait-elle elle-même, et alors je me disais, effectivement, elle me raconte des histoires. Je ne vais quand même pas être assez crédule pour m'en laisser ainsi conter. Méfie-toi, résiste au charme qui émane d'elle et de son récit. Pontalis continue. Cette femme charmante et charmeuse faisait son miel de tout comme une abeille infatigable. Un propos saisi au vol de quelques voisins de table au restaurant, la mine sombre aussi inquiète qu'inquiétante d'un passant croisé dans la rue, un rien lui suffisait pour imaginer une vie entière, passé, présent, avenir, comme elle savait s'y prendre pour tenir son auditeur en éveil. Le plus souvent, j'étais incapable de décider. Me faisait-elle le récit d'un rêve, l'histoire en question étant des plus étranges, ou me rapportait-elle, se bornant à lui donner plus de relief et de couleur, un épisode du jour? Le jour ne nous offre-t-il pas aussi bien des occasions de rencontre avec l'insolite? Vite, je pris le parti d'écouter le récit d'un événement supposé diurne comme un rêve et un récit de rêve comme celui d'un épisode du jour. Je ne séparais plus la chambre diurne de la chambre nocturne. Leur locataire, après tout, était le même et tous les personnages du conte n'étaient sans doute que des émanations de la conteuse. Voilà. Alors, oui, c'est parce que je pense que souvent ce que tu me racontes, c'est à la fois de l'ordre de la réalité et de la fiction, mais même plus souvent quand tu me parles, j'ai l'impression que tu me racontes des histoires qui sont des rêves, que je ne sais plus si c'est des rêves ou des réalités. Et j'ai eu exactement ce sentiment en te lisant. Quand j'ai lu un de tes récits qui s'appelle L'homme de ma vie, je me disais, est-ce qu'elle nous raconte des morceaux de rêve? Est-ce que ça lui est vraiment arrivé? Je commençais à me méfier de toi. Hein, je voulais pas me laisser prendre comme lui par ce charme-là, le charme du rêve, parce qu'on ne sait pas trop où on va quand il y a le charme du rêve. Alors, je voulais savoir si tu sentais ta parole comme ça ou si tu te sentais dans le rêve quand tu racontes des histoires.
D'abord, je suis flattée. J'aime beaucoup ce texte. Ça va me donner d'abord envie de relire Pontalis, effectivement, que j'ai pas vu depuis un sacré bout de temps. Mais j'ai l'impression qu'il fait là le portrait de l'écrivain. Ça pourrait être, ça, bon, si ça se rapporte à moi, je le comprends. Mais ceci dit, je pense que ça peut, effectivement, c'est une des définitions de l'écriture, telle que moi je l'entendais là. Si je pensais pas à moi-même et si je savais pas que ça me fait penser à moi, ça me ferait penser à une définition possible de l'écriture. Enfin, la raison pour laquelle c'est la définition de l'écriture, c'est que pour moi, le roman en particulier, ou simplement l'acte d'écrire et la transformation de, vraiment la transformation du réel en fiction. L'acte d'écrire fait ça. Alors, après, penser ou vouloir dire qu'il s'agit du réel ou s'intéresser au fait que ce soit réellement arrivé à l'écrivain en question me paraît totalement secondaire, voire obscène, c'est-à-dire hors de propos, hors de la scène même, puisque justement le fait même de raconter quelque chose qui a eu lieu, même si on a souci de dire la vérité, ça n'est jamais qu'une vérité souvent postérieure et ensuite littéraire. La vérité littéraire, elle n'est absolument pas la vérité littérale, celle qui est recherchée dans un rapport de police, par exemple. Alors effectivement, c'est pas du tout ce qu'on demande à un écrivain. Et d'autre part, raconter une histoire exactement comme elle s'est passée, sur le plan littéraire, ça donne souvent de très très mauvaises choses, en plus. Alors, pour l'homme de ma vie, en revanche, j'ai tout ce que j'ai raconté dans l'homme de ma vie m'est effectivement arrivé, et ainsi que que ça a été vécu par moi. C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus autobiographique, de plus vrai, donc quoi que ce soit qu'un écrivain raconte et surtout écrive, c'est son ressenti et la manière dont il a vécu qui, lui, est effectivement impérissable. Et c'est ça qui est, et que moi, j'essaye justement de donner avec autant de justesse et de vérité. C'est vraiment celle de l'émotion, du ressenti et de l'émotion partagée et transmise au-delà du temps et de l'espace, parce qu'il y a ça aussi. Si je raconte quelque chose qui a eu lieu il y a 20 ans et que quelqu'un lit ça dans 40 ans, tout cet espace et toute cette transformation du temps et de l'espace sera complètement abolie par le fait que ce sera toujours une émotion humaine. Et que pour moi, il n'y a que ça qui importe vraiment dans l'écriture. C'est la transmission de cette émotion humaine transmise par l'écriture. C'est la seule vérité littéraire qui soit.
Mais peut-être que le travail de l'écrivain tel que tu le conçois, c'est aussi quelque chose du travail du rêve. Parce que si on prend la matière brute de la vie, si ça existe, et on fait comme le rêve selon Freud, on opère de la condensation et du déplacement, je pense que le travail de l'écrivain serait aussi peut-être quelque chose du travail du rêve, si on peut l'imaginer comme ça. Mais je pense aussi, je voudrais revenir quand même sur la méfiance que Pontalis exprime face à cette femme dont il ne sait pas si les choses sont vraies ou fausses, parce que je pense que on cherche quand même, quand on nous raconte un rêve, en général, à ne pas s'y perdre. Je pense qu'on est toujours en train d'essayer de l'interpréter ou de vouloir voir ce qu'il reste de diurne dedans ou ce qu'il reste. Et que souvent, on essaye de pas se laisser prendre, surtout peut-être quand on a une déformation un peu savante ou théorique, on essaie de pas se laisser prendre en se disant bon, je veux pas rentrer dans ses histoires, je veux pas rentrer dans ses rêves, j'aimerais partager le faux du vrai. Mais je pense qu'il y a un véritable charme du conteur, mais je pense que peut-être ta particularité, parce que je veux revenir quand même, oui, c'est l'écrivain, mais beaucoup de gens quand ils racontent dans l'écrit arrive très bien à nous faire partager un travail achevé du rêve, mais toi tu arrives dans la vie, c'est-à-dire que quand tu nous parles, alors que souvent quand on raconte des histoires c'est assez ennuyeux, ou même quand on raconte ses rêves ça peut être ennuyeux pour l'autre, hein, toi tu arrives vraiment à nous les amener comme des formes romanesques, hein, tu racontes tes rêves même comme des histoires achevé, alors que moi je pense avoir un rapport tout à fait différent. Je n'arriverai pas du tout à te raconter un rêve et que quelqu'un s'y laisse puisse être fasciné par ce que je raconte. Enfin, je pense pas. Ça va être trop morcelé. Que toi, tu arrives à en faire vraiment une histoire.
Mais en fait, je pense vraiment que ce qui m'arrive est une histoire. Ça devient une histoire. Dès que c'est vécu, c'est une histoire. Évidemment, si je suis jamais en train de raconter ce que je suis en train de vivre au fur et à mesure que je le vis. Donc, dès que quelque chose a eu lieu et qu'on le raconte, c'est une histoire. C'est ce qui a d'ailleurs explique la première phrase de l'homme de ma vie où je d'emblée dis ce matin j'ai eu envie de vous le raconter, c'est donc une histoire. Parce qu'effectivement, quand on se met à raconter la chose, après ça, il y a la manière, il y a la forme. Et ça, c'est vraiment aussi la forme, c'est aussi la littérature. Moi, j'écris tous les jours des articles pour les journaux. Je suis journaliste, donc la vérité des faits et la manière de l'écrire, à la manière journalistique, je la connais aussi. Il s'agit surtout pas de se laisser aller à raconter ou à extrapoler autre chose que les faits, même si ce sont des critiques de spectacle ou même si je suis journaliste culturelle, je ne peux pas m'amuser à broder autour de ça, c'est sûr. Et c'est en soi une différence fondamentale avec la forme de récit, romanesque ou non, comme dirait de la manière la plus juste possible.
Mais pour moi, ce qu'il faut, comme je disais, la justesse et la vérité que je recherche étant toujours celle de l'émotion. Alors, je veux bien croire que mon côté oriental donne un côté Scheherazade qui sait raconter des histoires. Je pense que ma vie romanesque, en tout cas mon fils le dit, puisque j'ai raconté qu'il a dit que effectivement je m'y suis reconnue, ça m'a beaucoup frappé qu'il donne de moi cette définition. Ma mère n'est pas romantique, elle est romanesque. Et ça m'a beaucoup étonnée parce que on est toujours étonné d'une définition surtout aussi juste, concentrée, presque laconique de la part de son fils aîné le jour de mes 40 ans. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, c'est sans doute une chose, ça résonnait juste, voilà, justement. Et puis, je me suis d'ailleurs récemment dit que finalement, tout ce que je pouvais inventer comme histoire, souvent, n'était même pas à la mesure, je dirais, à la dimension, parce que je ne veux pas employer le mot auteur qui pourrait porter à controverse, mais à la dimension de ce que j'ai vécu, et que finalement, ça suffit. J'ai l'impression que plus ça va, et plus j'ai l'impression que tout ce que je pourrais inventer comme histoire sera pas à la hauteur de la manière dont je pourrais retransformer ce que j'ai vécu ou ce que d'autres ont vécu, m'ont raconté, etc. Et finalement, c'est la plus grande des fictions. Alors le rêve, lui, d'abord, il s'inspire aussi du réel, on le sait. Et pour moi, il y a un moment très précis, c'est vraiment très marqué dans ma vie, c'est que un rêve dont je me rappelle encore aujourd'hui et qui à l'époque m'avait quasiment cloué au lit pendant 4 jours, donc vraiment un moment important dans ma vie, a fini au bout de quelques mois par donner naissance au fait que je me suis lancée dans l'écriture. Je voulais devenir écrivain déjà depuis longtemps puisque j'ai commencé à l'écrire, même quand les profs nous demandaient ce qu'on voulait faire dans la vie. À partir de 11-12 ans, j'avais dit je vais être écrivain. Puis après, j'ai dit, oh non, je serai journaliste écrivain, parce que me rendant compte qu'il allait falloir vivre aussi. Donc il y avait ça déjà. Mais à l'âge de 24 ans, à peu près 6 mois avant que ma grand-mère qui m'avait élevée meure, j'ai fait un rêve qui était un rêve absolument terrorisant pour moi, où j'étais à l'intérieur de 4 murs qui se refermaient sur moi, qui allaient se refermer sur moi, donc je voulais sortir de cet endroit qui se rétrécissait, il fallait que j'en sorte. Je ne pouvais pas en sortir parce que un regard m'empêchait de sortir et surtout de traverser la rue que je voulais traverser pour pouvoir échapper à ces murs qui se rétrécissaient et aller inéluctablement se refermer sur moi. Donc, ce rêve terrorisant, je le faisais, donc je me réveillais complètement parce que ça me faisait peur, mais néanmoins, j'ai vraiment passé à peu près 4 jours dans un état de je ne sais pas comment expliquer cet état, de soit de rêve éveillé, soit de sommeil, de demi-sommeil. Je me rendormais à chaque fois, et le rêve continuait, le même rêve, et je me réveillais parce que j'étais terrorisée, et le rêve continuait, et ainsi de suite, et j'ai complètement confondu la nuit et le jour pendant 4 jours, je ne suis pas allée travailler, etc. Donc c'était vraiment un choc sur tous les plans. Et pour moi, pour une raison absolument hors de ma portée, ce rêve signifiait que ma grand-mère allait mourir. Et ça, c'était une certitude pour moi. Alors que rien, nulle part et personne ne parlait de ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au bout de la semaine? J'ai couru chez un psychanalyste. Et je suis arrivée chez lui en lui disant, écoutez, ma grand-mère va mourir. Alors bon, il me dit, oui, pourquoi? Bon. Enfin, bref, et je lui dis, je suis sûre qu'elle va mourir parce que je fais un rêve qui pour moi, ce rêve signifie qu'elle va mourir. Il n'y avait pas de lien direct entre le rêve et ma grand-mère. Donc, je lui raconte le rêve, etc. Je commence des séances d'analyse et heureusement, d'ailleurs, je pense, parce que en plus, ce rêve et ces séances d'analyse s'accompagnent d'une complète phobie nouvelle dans ma vie. J'habitais à Paris à l'époque, qui était l'incapacité à prendre le métro. Alors vraiment, ça coûte très cher après parce qu'on est obligé de prendre le taxi, l'autobus. Bon, l'autobus ça marche pas bien en France. Bon, alors le métro impossible. Et ce qui était surtout impossible dans le métro, c'était de rentrer dans la bouche du tunnel du métro
Et là, j'étais sûre et certaine que rentrer dans ce tunnel noir, c'était mourir. C'est sûr. Et ça, c'est fini. J'ai plus essayé de le faire le jour où le métro s'arrêtant dans le tunnel, parce que ça arrive, parfois, il peut s'arrêter pendant une minute, j'ai carrément sauté dans les bras d'une femme en lui disant « Sauvez-moi ». Donc, bon, là, ça commence à prendre vraiment la phobie, la réelle phobie. Et donc, pendant ce temps-là, j'ai des nouvelles de ma grand-mère, je lui téléphone tous les jours, elle va bien. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'être folle, de devenir complètement folle. Bon, les choses se passent, je poursuis mon analyse, je commence effectivement à déterrer des choses. La phobie me rend la vie impossible. Et un jour, le psychanalyste me dit « Mais comment s'est passé l'accouchement de votre mère ?» Et je sors de son bureau. Je me lève, je sors du bureau et je cours. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru. J'ai eu une telle panique complète. Et puis ça a été fini, ma phobie a été terminée. Je me suis dit, je n'avais jamais répondu à la question « Et comment s'est passé l'accouchement de votre mère ?» Mais ce que je sais, c'est que moi, par exemple, j'ai jamais accouché après. Parce que j'ai eu deux enfants, à chaque fois j'ai failli mourir, et eux aussi, et qu'à chaque fois, une césarienne pratiquée au dernier moment nous a sauvés. Donc, et aussi le fait que je n'ai plus jamais accouché. Moi non plus. Ma mère, oui, mais... Donc, c'est resté vraiment très ancré autour de cette question-là. Et pour faire une histoire courte, donc ça m'a mis sur le divan aussi, heureusement, parce que d'abord, bon, j'ai quand même retrouvé le sommeil, j'ai quand même été mieux, ma phobie a fini par disparaître. À part que, ce que je raconte là, c'était au début de l'été, donc mois de juin. Au mois d'août, je retourne en Macédoine pour voir ma grand-mère. Et je la regarde sous toutes les coutures et je lui parle et je lui parle. Et à tel point que, rendue à l'aéroport, elle me dit « Tu sais, on va se revoir. » Et je lui dis « Qu'est-ce que c'est que cette parole ?» Parce que moi, évidemment, je guettais la moindre chose qui me disait qu'elle allait pas bien, elle allait mourir. Donc, j'ai fini par me dire « Bon, c'est toi qui es complètement... C'est dans ton inconscient que ça se passe. » Et puis, mon psychanalyste m'avait évidemment engagé sur la voie de « Pourquoi votre grand-mère doit-elle mourir ?» Bon. Et pourquoi est-ce que c'est un si grand danger de mort qu'elle meure ? Donc, alors, je me mets à travailler sur ces questions effectivement fondamentales dans ma vie. Mais, en vérité, au mois de décembre, ma belle-mère, la seconde femme de mon père, arrive chez moi en pleurs et m'annonce. Et ça, vraiment, quand je l'ai vue, j'ai su qu'il y avait quelque chose à me dire. Effectivement, elle m'a dit, personne n'ose te le dire. Moi, je viens te le dire. Ça fait 15 jours que ta grand-mère est à l'hôpital. Elle a un cancer du pancréas et effectivement, elle en a pour un mois. Et elle est effectivement morte. Donc là, d'un coup, ça a basculé dans la réalité parce que j'étais la seule à le savoir par l'intermédiaire de ce rêve. La manière dont ça s'est traduit ensuite, dans la réalité, évidemment, j'ai pris l'avion, je suis allée la voir et elle en était à la phase finale. Elle est morte le 5 février, donc effectivement à peu près un mois et demi après. Moi, j'ai attrapé là-bas un microbe, un staphylocoque doré, mangeur de chair. Donc, je suis revenue à Paris, j'ai passé 6 mois à l'hôpital dans un état absolument indescriptible. Où j'ai perdu la moitié de la hanche, la faculté de marcher, où je ne parlais plus. Donc, j'étais retournée exactement au stade où j'étais quand, effectivement, ma mère est partie, que j'avais 8 mois, et qu'elle a pris le relais. Donc, elle disparaissant, moi, je me suis retrouvée exactement au stade où j'étais à ce moment-là. Et puis, j'ai fini par guérir. C'est une maladie et une guérison spectaculaire, comme je sais les faire. Et pendant tout ce temps-là, j'étais pas chez mon analyste, mais lui était vraiment... je me rappelle qu'il m'a téléphoné à l'hôpital, ce qu'un analyste ne fait pas. Mais là, il l'a fait parce que il essayait de trouver un espace symbolique entre ce que je vivais complètement au premier degré dans mon corps, et lui trouver l'espace pour mettre des mots entre les deux. Et donc, moi, j'y arrivais pas du tout, puisque j'arrivais même pas à parler, j'avais tellement mal que je faisais que pleurer, comme les bébés. Donc, vraiment. Et finalement, au bout de tout ce tunnel-là, dans lequel j'ai fini par être, et par sortir, quand je suis sortie de là, j'ai guéri, etc. Ma grand-mère était morte, bon, voilà.
Donc je me suis donné à ce moment-là, donc je me suis souvenu que ce que je voulais faire dans la vie, c'était être écrivain. Et j'avais 26 ans. Oui, c'est ça. J'avais 25 ans en fait. Et je me suis donné un an pour écrire et publier un livre. Et 6 mois plus tard, j'ai effectivement publié mon premier livre. Et au printemps prochain, ça va faire 20 ans d'ailleurs. C'est 20 ans de ma première, enfin 20 ans de publication pour moi. Donc le rêve au tout début de ce que je raconte est le rêve qui a annoncé dans la réalité, alors que j'avais vraiment... Et comme je l'ai dit, heureusement, quand même, mis un espace symbolique, un endroit où j'ai quand même pu en parler. Ah oui, et puis le mieux de tout ça, c'est que mon psychanalyste, qui évidemment voulait mettre un espace symbolique entre ce que je vivais et l'analyse que je pouvais en faire, simplement parce que j'étais réellement en danger de mort, a été, lui aussi, je sais que ça l'a profondément choqué, parce que ça s'est réellement passé, c'est-à-dire que ça n'était pas juste un rêve, ça avait quelque chose de profond, réellement prémonitoire. Soit dit en passant, ma grand-mère, j'ai raconté d'ailleurs dans N'arrête pas, était une femme qui faisait des rêves prémonitoires, et c'était des rêves prémonitoires affreux, la plupart du temps, comme elle a dit, si je pouvais au moins rêver d'une bonne chose. Mais elle rêvait toujours de catastrophes qui se réalisaient, et elle aussi on la prenait pour une folle. En particulier son mari, mon grand-père, mais elle les a, une fois comme ça, sauvés des nazis, à Sarajevo, au début de la Deuxième Guerre mondiale.
Quel rêve avait-elle fait?
Elle avait rêvé que leur chèvre, parce que c'était la guerre, ils avaient pas beaucoup de ressources, donc mon grand-père avait acheté une chèvre pour donner du lait pour les deux enfants qui étaient en très, très bas âge. Et donc ils avaient une chèvre, et elle avait rêvé que la chèvre était, décapitée dans l'étable. Et elle avait raconté ça, elle avait donc dit à son mari qu'il fallait qu'il parte parce que lui était un militant communiste. Évidemment contre le régime royaliste serbe de l'époque et clandestin, donc c'était un communiste clandestin, et il s'attendait à ce qu'un jour ou l'autre il soit attrapé éventuellement, et bien sûr il aurait été directement envoyé dans des camps, puisqu'à l'époque le royaume de Serbie, pendant pas longtemps mais pendant un temps, faisait partie de l'alliance tripartite avec l'Allemagne, l'Italie, la Bulgarie. Bon, et donc il risquait vraiment sa vie. Elle lui a dit ça, évidemment. Il lui a dit: oh, mais toi encore avec tes sorcelleries, etc. Ceci dit, quand c'est lui qui allait traire la chèvre le matin, et effectivement, 2 jours plus tard, il est descendu, la chèvre était décapitée. Et ils ont eu le temps, exactement comme dans le rêve de ma grand-mère, ils ont simplement eu le temps de s'en aller et de laisser tout derrière eux. Et ensuite, ils sont partis pour la Macédoine et n'est plus retourné ni à Sarajevo, ni en Herzégovine, seulement 30 ans plus tard. Donc, c'était un rêve direct comme ça. Puis, elle a vu également, alors, elle avait donc quitté sa mère, enfin plutôt sa mère à elle, l'avait chassée avec le curé de son village, elle était catholique, à coup de pierre, parce qu'elle partait épouser un orthodoxe à l'époque. Et elle a rêvé sa mère dansant nue autour d'une fontaine. Et elle a su ce jour-là que sa mère était morte, évidemment loin d'elle, etc. Et effectivement, elle a reçu un télégramme plusieurs mois plus tard, lui disant que sa mère était morte folle, dansant comme une folle autour de la fontaine du village. Elle avait rêvé, elle le savait que sa mère était morte, effectivement, ça lui a été confirmé. Donc, c'est bizarre, moi je trouve ça, en fait, moi j'en parle, mais ça me paraît terrorisant. Et je me demande, toujours d'ailleurs. Et mon psychanalyste était d'autant terrorisé que, quand je suis retournée le voir, il avait un problème à la hanche gauche, comme moi, j'avais. Moi, j'avais été hospitalisée pendant plusieurs mois pour... un problème à la hanche, puisque ma hanche avait été bouffée par le microbe. Et ben, quand je suis arrivée, c'est lui qui était en béquille, avec un problème à la hanche gauche. Il avait fait un contre-transfert, mais alors extraordinairement visible. Et donc, je pense qu'il se méfiait de moi. c'était pas le seul à se méfier de moi. Mais moi, je trouvais, et d'ailleurs, moi, je l'ai quitté parce que, en fait, je le trouvais pas suffisamment résistant. Je trouvais que j'allais en faire qu'une bouchée, j'avais vraiment rien à faire là.
Et j'ai changé, j'ai effectivement changé pour une psychanalyste femme. Avec laquelle j'ai poursuivi mon analyse, sachant que le premier livre que j'ai publié a été immédiatement suivi par la naissance de mon premier enfant aussi. Donc les choses se sont vraiment enchaînées et au départ quand tu m'as demandé de participer à cette réflexion que je trouve vraiment intéressante, je me suis dit mais moi j'ai rien à raconter sur les liens rêve et écriture. Eh ben en fait, j'ai quelques liens à faire.
Mais je vais te poser une question parce que tu es donc d'une famille où vous héritez de rêves prémonitoires et puis vous héritez même de rêves prémonitoires sur la mort de vos mères ou grand-mères. En fait, il y a l'air d'avoir une espèce de filiation qui se fait aussi comme ça. Alors, comment ça se fait que tu as été en analyse à partir de ce rêve? Tu sais, ce qui m'interpelle dans ce que tu racontes, c'est que à la fois, tu mêles une façon de comprendre les rêves qui est très ancienne, tu sais, en essayant d'y voir les signes. Moi, mon père, qui est grec aussi, tous les matins, il nous racontait ses rêves pour nous dire, bon, voilà ce qui va se passer aujourd'hui. Bon, mais il n'aurait jamais voulu aller en psychanalyse, tu vois ce que je veux dire? Mais toi, ce qui m'amuse dans ce que tu vois, c'est qu'à la fois, tu vois le côté prémonitoire, donc une interprétation plus ancienne du monde et qui peut être tout à fait vraie. Et en même temps, tu vas vers la psychanalyse qui te dit, bon, vous êtes quand même responsable de vos rêves, c'est pas juste le monde qui parle à travers vous, il y a quand même vous aussi qui parlez à travers vos rêves. Alors, c'est ce mélange des deux que je trouve étonnant. Alors, comment tu t'es retrouvée en psychanalyse? Pourquoi tu t'es pas seulement dit, ça va arriver et puis il faut faire quelque chose? Tu vois, je veux comprendre le rapport à la psychanalyse là-dedans.
Oui, ce que tu dis me fait penser au fait qu'effectivement, il y a le rêve interprété comme un destin immuable, une fatalité, un fatum. Et ça, effectivement, ça appartient profondément à la culture méditerranéenne et orientale et donc, en fait, aux racines de l'humanité, puisque l'humanité vient de ce côté-là. Donc, ça, c'est certain. Et puis, il y a le rêve comme... En effet, annonciateur, mais annonciateur des désirs et de tout ce qu'on pourrait en faire. Donc, quelque chose qui n'est pas enfermant comme un fatum et un destin, mais au contraire, quelque chose qui est une clé pour construire les choses soi-même à partir du moment où on les a comprises. Donc, c'est deux interprétations complètement différentes. L'une est lourde et enfermante et il n'y a pas à discuter. Et c'est comme ça, on n'a qu'à suivre son destin. Et puis, il y a l'autre qui, elle, effectivement, a été donnée par la psychanalyse, justement. Mais moi, ça me fait penser à l'astrologie. Il y a l'astrologie orientale, notamment tibétaine et indienne, qui est celle du karma, dont on se sort pas, et l'astrologie occidentale, qui d'ailleurs a été métamorphosée elle-même depuis la psychanalyse, et notamment par l'école américaine, qui est celle de l'énoncé symbolique des dynamiques de l'inconscient destiné à voir qu'est-ce qu'on en fait. Donc c'est complètement, c'est pas voici votre avenir, mais qu'est-ce que vous pourriez faire à partir de la donne de cartes qui est la vôtre, et c'est celle-ci. Et j'ai passé 3 mois avec l'astrologue du Dalai Lama à prendre des cours plus de philosophie, mais aussi d'astrologie tibétaine, et je suis sortie de là en me disant, c'est pas pour moi. Parce que elle m'a donné un papier où il y avait écrit quasiment au jour le jour ce qui allait m'arriver dans la vie, et puis il y a un moment donné, ça s'arrêtait. Et là, ça devait sans doute être le jour de ma mort, à part que je n'ai jamais regardé ce papier. Et puis en plus, ça avait vraiment un côté absolument immuable. Donc j'ai appris des tas de choses avec elle, mais j'ai aussi compris que c'était pas la même société. Et ça n'est pas, c'est une question de société aussi. Il n'y a rien à faire. L'humanité s'est construite dans le go west. Et effectivement, plus on avance vers l'ouest, symboliquement, et plus on se dégage à la fois de l'archaïque, ce qui ne veut pas dire qu'on doit le perdre complètement. Ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser différemment. Mais d'abord, c'est vrai que je suis profondément une occidentale avec des sources et des racines orientales. Les deux étant vivants et vivaces. Ensuite, j'ai souvent dit, et c'est très vrai, que J'ai à la fois un fond archaïque, on va dire, ou archaïque parce que toute la partie de la partie balkanique et orientale de mes origines et de mes sources, c'est quand même déroulé avant que je n'accède à l'écriture et à la lecture. Donc c'est vraiment tout ce qui était avant justement toute la rationalisation qui, elle, appartient entièrement à la langue française, à son acquisition et ensuite à sa maîtrise. Et que c'est très net chez moi. C'est-à-dire que tout ce qui était de l'ordre, bien sûr, à la fois du corps, du ressenti, mais aussi de l'inconscient, grosse part de cette part-là, et se situe avant les 5 ans, puisque je suis arrivée à 5 ans à Paris, et c'est vraiment l'âge de la socialisation et aussi le passage définitif à la langue française, ce qui fait que je n'écris qu'en français aussi. Je ne pense, je n'écris, et je comprends d'autres langues, je lis d'autres langues, mais c'est la seule langue dans laquelle j'écris. Et c'est aussi l'écriture qui me permet de faire les liens entre les deux. Alors, il y a d'une part, pour moi, l'écriture est le lieu de la rationalisation, finalement. C'est là où se passe le mélange des deux, c'est-à-dire à la fois cette inspiration qui viendrait aussi d'ailleurs, le lieu où l'imaginaire et l'inconscient sont directement débridés et...
Alors, Aline, tu es la première que je vais recevoir à cette émission que j'inaugure aujourd'hui, qui s'appelle « Rêver pour moi ». Et je voulais que ça soit toi, parce que je crois que ton rapport au rêve est très particulier. Nous avons déjà parlé de nos rêves. Mais je vais te dire aussi que ça sera toi, parce que tu me fais penser à un texte de Pontalis dans « Le dormeur éveillé ». Et je vais te lire... ce texte auquel je pense quand je pense à toi.